Kiosque Magazine.
Bon matin, bonjour à tous. Nous sommes le 1er avril 2015 et le printemps s'en vient enfin. Bienvenue sur les ondes de Canal M avec le kiosque magazine Santé, Cuisine et Maison. Ici, on prend soin de votre corps, votre psyché et votre environnement. Je vous souhaite à tous une belle journée et j'espère que vous aurez plaisir en notre compagnie. Au micro, Safia Larabi, aux côtés de Dominique Millet.
Bonjour Safia.
Et Sophie Chevance.
Allô Safia, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors mesdames, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Dominique ?
Mais écoute, moi je vais vous parler de l'horoscope des petits gâteaux et du bonheur. Voilà, des sujets un peu plus
gourmandise et félicité.
Voilà, un peu plus gai que la semaine dernière parce qu'on était un peu sombre là, comme le soleil revient. Voilà.
On se reprend. De mon côté, en fait, moi, je parlerai aussi côté cuisine de où trouver du chocolat. J'aurai quelques adresses pour vous en ce temps chocolaté. Et puis ensuite, on partira à la découverte des vignobles canadiens. Et côté maison, l'étonnante histoire du salon. Et puis, l'avenir, semble-t-il, serait aux petites maisons.
Très bien. Quant à moi, je vous parle aujourd'hui plus des relations familiales avec... un article sur le statut des mères québécoises et de leurs relations avec leurs enfants.
À tout de suite.
Personnalité sucrée. Alors c'est un petit horoscope des petits gâteaux et c'est dans le Véro Magazine du printemps 2015 par Alexandra Bouliane. Dites-moi quelle pâtisserie vous aimez et je vous dirai qui vous êtes. Voilà ce que nous révèle avec humour Alice Mitterrand, l'auteur du livre Psycho du gâteau aux éditions du Chêne. Alors tout d'abord le macaron. Tout comme ce joli dessert dont l'aspect délicat et coloré charme au premier coup d'œil, vous êtes reconnu pour faire une bonne première impression. Tour à tour croquant, fondant ou collant, le macaron se prête à toutes les consistances et change sans arrêt d'apparence comme vous. Bien que vous excelliez dans l'art de la dissimulation, vous auriez intérêt à être plus stable. Le cupcake. Fashionista dans l'âme, vous avez un goût prononcé pour les belles choses et vous êtes assoiffé de nouveautés. Il faut toujours vous émerveiller et vous surprendre. C'est pourquoi vous aimez tant ce gâteau si esthétique et si trendy, qui se décline en plusieurs saveurs, couleurs et textures. Fraises, vanille, chocolat, noisette, impossible de s'ennuyer. La madeleine. Comme Proust, vous affectionnez ce petit gâteau vanillé pour sa douceur enfantine et son évocation du bonheur simple. Votre univers oscille entre réalité et fantasme. Personne sensible et intensément romantique, vous aspirez à l'amour infini. Une chose est sûre, vous êtes une éternelle rêveuse au tempérament sobre. L'éclair au chocolat. Pas surprenant que vous soyez réputé pour vos éclairs de génie. Votre cerveau bouillonne en permanence. Un éclair, c'est vite mangé. Et vous pouvez en avaler plusieurs d'affilée, ce qui vous donne assez de temps pour cogiter et spéculer.
On aurait dû se faire un petit présentoir à matin avec voilà. Différentes...
Vu votre nature ultra réactive et votre énergie de battante, les calories seront vite dépensées. Le millefeuille. Votre idéal existe, tout au moins sous forme de dessert. Minutieuse, vous raffolez de cette pâtisserie qui, par sa présentation soignée et sa combinaison savamment dosée de pâtes feuilletées et de crème pâtissière qui ne dépasse jamais, frôle la perfection. Vous avez un souci maniaque du détail et de la propreté. Celui qui voudra conquérir votre cœur devra être tout aussi irréprochable. Le gâteau au fromage. Vous savez vous faire aussi discrète que ce gâteau sur un menu. Sous son apparence fade, se cache pourtant un goût fabuleux qui nous captive dès la première bouchée. Dès que vous surmontez votre introversion, on se rend compte que vous êtes unique. N'ayez pas peur de vous exprimer malgré votre pudeur, car vous avez beaucoup à offrir aux autres. Le gâteau aux carottes. Je vois tous ces yeux vers moi là qui me regardent avec tout.
Tu vas te transformer en éclair chocolat bientôt.
Vous en mangez plusieurs fois par semaine. Ça n'a rien de surprenant, puisque c'est votre porte-bonheur. Très superstitieuse, vous êtes convaincue que les carottes possèdent des vertus magiques. Non seulement elles vous donnent bonne mine et vous rendent plus heureuse et plus aimable, mais elles vous aideraient également à chasser les ondes négatives et à éloigner le mauvais sort. Et enfin, le brownie. Ce gâteau typiquement américain est à votre image, intense comme vos colères, dense comme votre discours et parsemé de quelques pacanes aussi rares que votre délicatesse à l'égard des autres. Attention à ceux qui oseraient vous comparer car vous êtes susceptible, vous contrarier, pardon, car vous êtes susceptible et impulsive, toujours prête à dégainer la première. Que serait votre journée sans quelques solides affrontements ? Et à la suite de cet article, j'ai trouvé un petit quiz vrai ou faux. Le sucre fait grossir, parce que tous ces gâteaux, c'est quand même beaucoup de sucre. Faux, il n'est pas systématiquement transformé en gras, car c'est avant tout un carburant. Il commence à être stocké seulement quand les apports alimentaires dépassent les besoins, soit quand on mange régulièrement au-delà de son appétit. Et le sucre crée une dépendance, c'est faux aussi. Il ne crée pas d'accoutumance en tant que tel, c'est plutôt qu'à force de s'en priver, on n'arrive plus à se contrôler quand on y a finalement accès.
Mais il n'y aurait pas de dépendance au sucre alors ?
Ben non. Ah bon. On ne devrait donc pas craindre notre visite à la cabane à sucre, mais plutôt savourer lentement notre festin pour éviter le trop-plein. Voilà toutes ces bonnes nouvelles.
Trouver du chocolat pour cette fin de semaine de Pâques. Alors un texte d'Émilie Bilodeau paru dans la presse le 31 mars, hier tout simplement. Voici donc 5 bonnes adresses pour dénicher du chocolat qui ravira petits et grands pour Pâques. D'abord, chocolat privilège, le premier. Au lieu d'offrir un traditionnel coco de Pâques aux grands amateurs de chocolat, donnez-leur un atelier sur la fabrication de chocolat chez Chocolat Privilège au marché Atwater. Dans son cours, le chocolatier explique toutes les étapes pour arriver à transformer les fèves de cacao en tablettes de chocolat. Pour ceux qui tiennent absolument à leur friandise sucrée à Pâques, les 7 succursales de Chocolat Privilège proposent de nombreux chocolats en forme d'animaux comme des écureuils, des vaches, des poules et évidemment des lapins. Alors, petit tour à faire au marché Atwater. Ensuite, le deuxième, Chocolat Favori. À ses tout débuts, en 1979, Chocolat Favori se spécialisait uniquement dans la confection de chocolat de Pâques. On peut donc dire que la chocolaterie possède beaucoup d'expérience. Pour l'occasion, plus de 40 personnages, du cochon à la grenouille, seront moulés en chocolat. Au plus grand bonheur des Montréalais et des gens des environs, la chocolaterie de Lévis compte maintenant une succursale à Boucherville sur la rive sud. Et vous avez même l'adresse, en fait, c'est au 1005 rue Lionel Donnet à Boucherville. En troisième, Christophe Morel. Christophe Morel est un des chocolatiers les plus réputés de la province et même du pays. Pour ses créations de Pâques, il utilise du chocolat pur, origine de Saint-Domingue. C'est un de mes chocolats préférés. Il dit qu'il n'est pas acide, a un goût long en bouche et un petit goût de fermentation intéressant. C'est un chocolat de qualité qui passe partout, explique le chocolatier. Bonne nouvelle, ces chocolats sont vendus un peu partout en province. Et vous avez une adresse aussi à Boucherville. Tout se passe à Boucherville, semble-t-il, en tout cas une grosse partie, au 1275 rue Gay-Lussac. Ensuite, la maison Cacao. Cacao, C-A-K-A-O. La petite succursale de la maison Cacao a beau être un peu à l'écart de l'avenue Laurier Est, sa réputation n'est plus à faire. Pour Pâques, on retrouve évidemment des poules et des lapins en chocolat. Mais comme la chocolatière Edith Gagnon aime faire les choses différemment, elle propose aussi des animaux comme des hiboux, des lions et des homards. Pour le printemps, on craque tout particulièrement pour les chocolats en forme de carottes et de paniers de champignons. Voilà une délicieuse portion de légumes à faire avaler à vos tout petits pour ce week-end. 50. Alors là, c'est l'adresse qu'on nous donne, c'est au 5090 rue Fabre à Montréal. Et enfin, la dernière, la cinquième, la pâtisserie Rhubarbe. On ne pense pas toujours à se rendre dans une pâtisserie pour acheter son chocolat de Pâques. Et pourtant, En plus de ces délicieux desserts originaux, Stéphanie Labelle de la pâtisserie Rhubarbe confectionne des cocos, des hiboux et des écureuils en chocolat Valrhona. Alors c'est une combinaison de manjari, guanara, rivara et baibé. Pour ajouter un peu de croquant à ses créations, elle recouvre certains chocolats d'éclats d'amande ou de noisettes craquants. Et donc l'adresse, c'est au 5091 rue de Lanaudière à Montréal. Partons maintenant à la découverte des vignobles canadiens. C'est un article de Véronique Rivet paru dans la presse le 24 mars dernier. Il n'y a pas si longtemps, le Canada n'était pas reconnu comme producteur de vin. Tout a changé en 1991 au Salon Vinexpo à Bordeaux, lorsque le vin de glace Dinis Quilin a remporté la grande médaille d'or. La réaction internationale fut unanime. Le Canada produit du vin ? L'industrie viticole canadienne a fait bien du chemin depuis. Le vin de glace est toujours une spécialité, mais reste un produit de niche. La production canadienne se décline aujourd'hui dans tous les styles et toutes les couleurs. Mais les lois qui régissent l'alcool ici sont archaïques. Jusqu'à tout récemment, on ne pouvait pas transporter d'alcool d'une province à l'autre. Encore aujourd'hui, les règlements ne permettent que de transporter 12 bouteilles au-delà d'une frontière provinciale. Et il faut le faire en personne. Interdiction de commander du vin d'une autre province par Internet et de se faire livrer, du moins à partir du Québec et de l'Ontario. Je blague à peine, dit-elle, en disant qu'il est plus facile d'importer ici du vin de Hongrie que de Colombie-Britannique. Trois petits points. Les consommateurs québécois qui visitent pour la première fois une succursale de la LCBO sont souvent surpris par la quantité de vin ontarien offert. Pourquoi n'en voit-on pas davantage sur les tablettes de la SAQ ici au Québec? Pour la Colombie-Britannique, c'est encore pire. Certes, son industrie est plus petite que l'ontarienne, mais cela ne l'empêche pas d'exporter beaucoup de vins aux États-Unis. La SAQ a beaucoup amélioré son offre de vins québécois et c'est très louable. Par contre, la sélection d'autres vins canadiens laisse à désirer. Ce qu'il faudrait par-dessus tout, c'est modifier les lois de façon à permettre à tout Canadien, peu importe où il réside, de commander du vin d'une autre province. En attendant, la meilleure façon de découvrir ces vins est de se rendre sur place. C'est un bon prétexte pour voyager. Le Canada regorge de régions viticoles pittoresques où vignobles, auberges de charme et bonnes tables se côtoient. Alors en Ontario, on nous dit que les cépages de climat frais donnent les meilleurs résultats. Chardonnay et Riesling en blanc, Pinot Noir, Gamay, Cabernet Franc en rouge. Les Riesling d'Ontario offrent souvent un excellent rapport qualité-prix. Même ceux sous la barre des 15 $ sont souvent délicieux. Surveillez les arrivages de Château des Charmes, Cave Spring, Henry of Pelham, Taos ou Vineland qu'on retrouve parfois au Québec. Il y a aussi les vins très bourguignons de Thomas Batchelder ou encore ceux de Normand Hardy dans le comté de Prince-Édouard, la plus récente région viticole d'Ontario et aussi la plus proche du Québec. Le comté est d'ailleurs une destination de choix pour une fin de semaine avec ses paysages bucoliques, ses auberges, restaurants, artisans fromagers et antiquaires. Les amateurs de vins mousseux trouveront aussi d'excellentes bulles ontariennes chez des producteurs comme Henry of Pelham, Trius, 13th Street, Huff Estate et Interland. Certes, un peu plus loin, les vignobles de Colombie-Britannique valent néanmoins le voyage. La vallée de l'Okanagan est sans conteste l'une des plus belles régions viticoles au monde. Les paysages y sont époustouflants, les vins délicieux et la gastronomie regorge de produits locaux. La variation du climat est surprenante et plutôt unique pour une aussi petite région. Au nord, on nous dit avec un climat plus frais, on retrouve d'excellents vins de Riesling, de Pinot Gris, de Chardonnay et de Pinot Noir tout en finesse. Au sud, le climat semi-désertique permet la maturation de cépages rouges plus tardifs, tels les Syrah, Merlot et Cabernet. Les Syrah y sont d'une qualité de plus en plus remarquable, nous dit-on. Et on n'aura pas fait le tour du pays sans faire mention des vignobles de Nouvelle-Écosse, une province où l'adéquation vin et mets est marquante. En effet, la province produit de très bons vins effervescents, ainsi que des vins blancs légers et fringants qui vont à merveille avec l'abondance de poissons et de fruits de mer frais. On y cultive entre autres un cépage hybride blanc, du joli nom de l'Acadie, qui donne des vins sur mesure pour accompagner la gastronomie régionale. À essayer sans faute les grands vins mousseux de Benjamin Bridge, qui rivalisent avec les champagnes et les délicieuses bulles de l'Acadie Vineyards. Et à venir bientôt un autre article qui nous dit qui fera en fait une tournée dans les vignobles québécois.
Un jour dans un village, quelqu'un s'est mis à vendre du pain. On venait de sauver de l'ouvrage, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Puis quelques temps après, la farine livrée à la ville, et puis vendue à la livre, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le blé porté sur les marchés du monde, le prix qui monte sur le dos de la demande. Ils ont breveté les semences, on sait plus par quelle botte s'y prendre pour manger. Plus tard, suivant la ligne, on a mis l'eau dans les bouteilles, puis les rivières dans les turbines, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. On bouche les trous avec des clous, l'argent du pain, l'argent du beurre, puis la chèvre et puis le chou, puis tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le bénéfice a mis sa main dedans le doute. La terre qui tourne peut même plus joindre les deux bouts. À 4%, on te remercie, puis pour le reste, il y a vas-y, faut payer. Flambée du prix de l'indécence, si tu veux être, faut que tu dépenses. La bourse mouline sur la confiance, tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien. Un petit peu moins pour un petit peu plus cher, au profit notre laisser-faire. Attendre jeudi pour le nécessaire, tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien. À la santé de la croissance, de la croissance. On laisse dormir l'amour dans les petites avances. L'incalculable a rendu l'homme, mais le silence, notre silence, puis la fin de notre silence, c'est combien? C'est combien?
C'est combien, chanson interprétée par Fred Pellerin. Et justement, pour cet article du Journal de Montréal du 18 mars 2015, intitulé « Une maman québécoise, ça vaut combien ?» C'est la plume de Stéphane Desjardins. Environ 20% des Québécoises sont des mères au foyer, selon la Gazette des Femmes en 2012. Si elles étaient payées à plein temps, cela ajouterait plus de 112 milliards de dollars au PIB du Québec. Comment en arrive-t-on à un tel calcul? En utilisant l'approche d'Interflora, une chaîne britannique de fleuristes, qui a fait un coup de pub en calculant le salaire fictif d'une maman à plein temps, soit 260 000 dollars par année, à partir du taux horaire moyen des enseignants britanniques, c'est-à-dire 33,73 dollars de l'heure. Et ici, selon l'enquête sur la rémunération globale du Québec, toujours en 2012, de l'Institut de la statistique du Québec, une enseignante au primaire ou au secondaire gagnait un salaire horaire moyen de 36,56 dollars en 2013. Le secteur emploie 74,2% de femmes. En utilisant la grille d'Interflora, soit une réponse de 119 heures par semaine en moyenne, 17 heures par jour, multipliée par le taux horaire des enseignantes québécoises, on arrive à un salaire brut de 226 233,28 dollars par année. Cette rémunération exclut les heures supplémentaires, se lever la nuit pour donner le biberon ou pour calmer l'enfant après un cauchemar, les visites à l'urgence, mais inclut une présence au boulot 7 jours sur 7. Une aubaine, cela étant. À ce revenu-là, notre maman va être imposée au taux marginal de près de 50%. Évidemment, il faudrait tenir compte de plusieurs facteurs avant d'en arriver à un salaire net. Nous avons fait l'exercice très aléatoire avec un fiscaliste. Une fois tous les calculs effectués, et si elle n'a fait aucun don, elle paiera 36 000 $ d'impôts au fédéral et 45 000 $ au provincial, montant arrondi en tenant compte des crédits d'impôts. Elle gagnera donc 136 233 $ après impôts. Comme il y avait 822 807 mères au foyer en 2012 au Québec, selon l'ISQ, ça représente un peu plus de 112 milliards de dollars selon notre calcul, pas du tout scientifique. Conclusion, les mamans à plein temps constituent une aubaine incroyable pour la société québécoise. Mais si on pousse la logique un peu plus loin, il faudrait tenir compte de l'implication des papas dans les tâches domestiques. Selon Statistique Canada, les femmes consacrent en moyenne une fois et demie plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et aux soins aux enfants. Mais nous avons renoncé à faire ce dernier calcul. Continue avec les jeunes mamans, jeunes adultes ou grands enfants. C'est un article écrit par Nathalie Valeran se trouvant dans le coup de pouce du mars 2015. « Maintenant, je peux faire ce que je veux », m'a dit mon fils, aîné à ses 18 ans. « Et moi, je suis encore ta mère », lui ai-je rétorqué. « Lui et moi, on s'entend bien ». On s'est dit ça en riant. Mais ça signifiait quand même que notre relation évoluerait. Après tout, il était maintenant un adulte. Il n'y a toutefois pas eu de grands bouleversements. Le changement, amorcé au début de son adolescence, s'est poursuivi à mesure que je lui donnais plus de cordes et que j'affinais ma capacité à lâcher prise. En fait, le moment charnière a lieu à ses 17 ans. J'ai alors commencé à me dire de plus en plus souvent qu'à son âge, je ne pouvais plus vraiment lui interdire ceci ou cela, ou lui dire quoi faire et comment. Il faut apprendre à doser nos interventions, constate ma collègue Brigitte, qui a eu une fille de 19 ans. Par exemple, ma fille a tendance à percevoir mes questions comme une intrusion dans sa vie privée, alors que c'est simplement de l'intérêt, dit-elle. Son truc ? Aller au resto en tête-à-tête avec sa grande de temps en temps. Elle s'ouvre davantage. Nathalie Issa, directrice générale d'Entraide Parents, un organisme de Québec qui aide les parents à rendre leurs jeunes adultes autonomes, suggère quant à elle de poser moins de questions pour plutôt nourrir les discussions avec le récit de notre journée, l'actualité, les projets de vacances. Bref, parler avec notre jeune comme à un adulte au lieu de le soumettre à un interrogatoire. Le cordon n'est pas coupé tant que notre fils ou notre fille vit sous notre toit. Mais il est beaucoup plus élastique, ajoute l'experte. L'heure du coucher ou du couvre-feu, le contrôle des allées et venues, le temps consacré aux adultes. On ne peut plus vraiment imposer, mais on peut suggérer et conseiller, dit-elle. Ensuite, c'est aux jeunes d'assumer les conséquences de ses actes. Attention, plus grande latitude ne rime pas avec absence de règles. Notre jeune n'a peut-être plus de couvre-feu, mais on peut lui demander de prévenir s'il ne rentre pas. Brigitte, qui a besoin d'être rassurée, a négocié un compromis avec sa fille. Lorsqu'elle sort le soir, elle m'envoie un message texte à son arrivée à destination et à son retour à la maison. Ainsi, si je me réveille la nuit, je regarde mon cellulaire pour savoir si elle est revenue. Par ailleurs, Nathalie Issa insiste sur l'importance de faire participer le jeune adulte aux tâches domestiques. Ce n'est pas en lui offrant un service 4 étoiles sans rien exiger en retour qu'on l'aide à devenir autonome, affirme-t-elle. Pour ma part, j'ai instauré une règle. Mes fils de 19 et 17 ans doivent chacun préparer un souper par semaine. Chose certaine, il y a des avantages à voir notre enfant devenir adulte. Il gagne en liberté. Mais nous aussi, on se retrouve comme femme, comme couple. On peut enfin penser à soi sans se sentir coupable. On est plus zen. Et il arrive qu'on réalise, comme Brigitte, que la pomme est tombée près de l'arbre. Ma fille s'est mise à superviser sa sœur de 14 ans, à la conseiller et même à lui dicter comment se comporter, raconte Brigitte. Ça m'énerve, mais en même temps, ça me fait sourire. Car je constate qu'elle a assimilé certaines de mes valeurs. Être parent d'un jeune adulte, c'est aussi beaucoup de fierté. Ma fille est allumée, elle s'intéresse à plein de choses, elle est cou ouverte sur le monde, se réjouit Brigitte. Et ça, c'est mon salaire de maman. Perdre du poids en changeant de lunettes. C'est un article du Coup de pouce de mars 2015 sous la plume de Geneviève Rossier, rédactrice en chef. En 2007, la psychologue new-yorkaise Hélène Langer a eu une brillante idée. Demander à 84 femmes de chambre si elles étaient ou non physiquement actives. Croyez-le ou non, ces femmes qui ne font que bouger toute la journée lui ont répondu que non. Le tiers d'entre elles disaient même ne faire aucun exercice physique et leur allure reflétait leur perception. Elles étaient toutes en surpoids. Langer les a divisées en deux groupes. À celle du premier, elle a expliqué combien de calories elles brûlaient avec chaque tâche. Par exemple, 15 minutes d'aspirateur équivaut à 50 calories et 15 minutes de frottage à 60. Elle leur a expliqué que, selon les standards nationaux, leur tâche faisait d'elles des femmes extrêmement actives. À l'autre groupe, Langer n'a rien dit. Un mois plus tard, les femmes du groupe informé avaient perdu du poids, 2 livres. Leur pression sanguine, indice de masse corporelle et ratio taille-hanche avaient diminué. Les autres étaient restées stables. N'est-ce pas fou ? Langer a montré ainsi comment l'état d'esprit avec lequel on approche la vie change les choses. En percevant leur travail comme une forme d'exercice, les femmes de chambre ont commencé à en ressentir les bienfaits. Autrement dit, les lunettes qu'on met pour voir le monde et les mots qu'on choisit pour décrire le monde ont le pouvoir de changer nos idées. C'est peut-être pour ça que le Premier ministre Couillard veut nous porter de rigueur et non d'austérité. Je vous dis ça parce que justement, ce printemps, tout autour de nous, il sera question d'austérité ou de rigueur, de compression ou de coupure, de perte d'emploi ou de réduction de services. On en parlera partout. Mais ce qui va suivre aussi est un article sur les 18 raisons de continuer à croire en l'avenir.
Bon retour sur les ondes de Canal M au kiosque magazine consacré à la santé, à la cuisine et à la maison, pardon. Donc on continue l'émission avec un nouvel article côté maison cette fois-ci, l'étonnante histoire du salon. C'est un texte de Fabienne Couturier paru dans le journal La Presse le 26 février 2015. Qui n'a jamais observé avec amusement, lors d'une fête en famille ou entre amis, que tous les invités sont encore une fois entassés dans la cuisine, si exiguë soit-elle, au lieu de prendre leurs aises au salon.
C'est assez typique ça, hein ?
Oui, en effet, ce n'est pourtant pas une vue de l'esprit de tout temps. Le cœur de la maison, la pièce où l'on vit chez les Canadiens français, a été la cuisine. Il y a à cela des raisons historiques. Alors, voyons voir. De 1660 à 1763, au temps des colonies. À la campagne comme à la ville, l'habitation typique des familles modestes ne compte qu'une pièce où tous dorment, mangent et accomplissent leurs tâches quotidiennes. Le lit dans un coin est fermé par des courtines ou des portes de bois, histoire de préserver un rien d'intimité. Un berceau, une table, des bancs, quelques chaises alignées contre un mur, un ou deux coffres où l'on range effets et ustensiles, à cela se résume l'ameublement. Les bourgeois et les grands marchands, eux, font construire des demeures à la mesure de leur propre prestige. À grands frais, ils importent de France des meubles de style Louis XIII que les artisans locaux arrivent bientôt à reproduire à moindre coût, ce qui en répand l'usage dans la petite bourgeoisie. Autre période, donc là on poursuit en fait la progression au fil de l'histoire, 1763 à 1867, l'influence anglaise. Après la conquête, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, les Anglais et les Écossais s'installent dans les demeures rurales traditionnelles dont ils transforment l'aménagement. Dormir dans la pièce où l'on mange devient malséant, si bien que des chambres à coucher sont aménagées sous les combles, ce qui mène à l'apparition des lucarnes. Au rez-de-chaussée, la cuisine fait toujours office de salle commune. Une grande chambre s'y ajoute que l'on n'ouvre que dans des que dans des très grandes occasions. On y trouve une petite table et quelques chaises à accoudoir, un crucifix, etc. C'est là qu'on expose les défunts de la famille, là aussi que l'on reçoit le curé. Autrement, cette pièce reste close, tant pour la garder propre que pour économiser le chauffage. Ensuite, de 1767 à 1939, la période de l'industrialisation. Les machines tournent à plein régime. Le train et les bateaux à vapeur facilitent les communications, les importations, les voyages. La mode de l'orientalisme fait rage. Chez les bien nantis, le salon devient le lieu de toutes les extravagances. Les murs sont couverts de tableaux, de soieries, de gravures. Sur les tapis d'Orient, les tables et les guéridons sont surchargés de porcelaine et de plantes. On entasse les coussins, les paravents, les tentures à franges, les cabinets laqués incrustés de nacre. Du côté de la classe moyenne, apparue avec l'ère industrielle, le mobilier de salon se démocratise grâce à la fabrication en série. Canapés et fauteuils deviennent courants, y compris dans les fameux salons doubles des appartements montréalais, lesquels n'ont d'ailleurs de salon que le nom. Ce sont en fait des chambres à coucher. Il y a bien un canapé dans un coin, mais il sert généralement de lit à l'aîné des enfants. Le jour, on remet tout bien en ordre et on s'assied. À la cuisine, où trône la radio, cette nouvelle merveille. Alors ensuite, de 1939 à 1960, la guerre et l'après-guerre. Avec la Seconde Guerre, naît le bungalow, qui fleurit depuis dans toute l'Amérique. Mais ici encore, le Québec francophone se distingue. Alors que chez nos voisins, la family room est bien le salon, c'est encore la cuisine qui joue ce rôle dans les foyers québécois. L'entrée de façade de la maison, pratiquement condamnée, est même souvent amputée de son vestibule pour donner un peu d'espace au salon que l'on a fait plus petit pour agrandir la cuisine. Et enfin, on arrive tranquillement jusqu'à notre époque, jusqu'à nos jours, de 1960 à maintenant, modernisme et post-modernisme. La vogue des aires ouvertes tend à faire du salon une pièce à vivre, la pièce où vivre en fait. De plus en plus, on y mange, on y joue, on y regarde la télé, on y dort parfois. En cela, on peut dire que le salon d'aujourd'hui vient d'accomplir un intéressant retour aux origines, puisqu'il est en train de redevenir la pièce multifonctionnelle, adaptable et flexible qu'était la salle commune des premières maisons de Nouvelle-France. L'avenir est aux petites maisons, un texte de Marie-Ève Moraz paru dans le journal La Presse le 4 mars dernier. Pour le professeur d'architecture Avi Friedman, les maisons étroites ont fait leurs preuves dans le passé et sont résolument les maisons de l'avenir. Nécessaires dans les vieilles villes européennes fortifiées où l'espace était limité, elles ont été construites chez nous pour des raisons d'économie, explique le professeur de l'université McGill et auteur d'un ouvrage sur les maisons étroites. Il estime que c'est encore une bonne raison d'en concevoir aujourd'hui. Une grosse partie du coût de construction d'une maison est le terrain et les coûts d'infrastructure. Les gens paient les taxes selon la dimension de la façade. Donc si un propriétaire habite dans une maison de 40 pieds de large, il paie beaucoup plus que la personne qui habite dans une maison de 10 pieds, dit Avi Friedman. Les maisons étroites construites dans l'île de Montréal ont deux caractéristiques. Soit elles ont été construites il y a plusieurs décennies, soit elles sont en copropriété. En général, dans la ville de Montréal, le règlement stipule depuis les années 60 que la dimension minimale d'une maison doit être de 18 pieds carrés, explique Avi Friedman. La seule manière de construire plus petit que ça, c'est d'avoir un titre de copropriété. C'est ce que l'architecte a fait en créant avec son collègue Witold Rybczynski le concept de maison évolutive en 1990. Il s'agit d'une maison unifamiliale en rangée dont la façade est de 14 pieds carrés. Pour lui, les maisons étroites sont une réponse au changement démographique et à l'étalement urbain. Il suggère de regarder ce qui se faisait avant pour imaginer la ville de demain. Je pense que nous devons regarder ce modèle et faire des choses plus modernes. C'est un retour vers le futur, dit-il en riant. Thank you.
18 raisons de croire en l'avenir. C'est un article du Elle Société de avril 2015 sous la plume de collectif de Kenza Bénis, Violaine Charest-Sigouin et Dominique Forguette. Premièrement, la violence est en baisse. Selon les spécialistes, notre époque est une fin des plus pacifiques de l'histoire. Depuis la fin de la guerre froide en 1991, le nombre de conflits dans le monde a en effet chuté de 40%, et ceci engendre moins de morts. Autre bonne nouvelle, depuis une vingtaine d'années, la criminalité décroît dans la plupart des pays occidentaux. Au Québec, on comptait 61 meurtres en 2014, comparativement à 212 en 1975. Parmi les principaux facteurs qui expliqueraient cet apaisement, le criminologue Marc Ouimette cite le vieillissement de la population. Ce n'est pas à 60 ans qu'on braque des dépanneurs. Les perspectives économiques favorables du début des années 2000 et une jeunesse plus sédentaire. Comme quoi prendre de l'âge et jouer à des jeux vidéo peuvent aussi avoir du bon. On vit également dans un monde meilleur. Bien qu'on puisse avoir l'impression du contraire, l'humanité progresse. Non seulement il y a moins de violence dans le monde, mais la démocratie est présente dans plus de 50% des pays. La richesse gagne du terrain partout sur la planète, la pauvreté en perd et nous sommes en bien meilleure santé que nos ancêtres, comme le témoigne notre longévité. Par exemple, en Angleterre, l'espérance de vie est passée de 36 ans à 80 ans entre 1801 et 2011. Afin d'illustrer notre évolution au cours des siècles, Max Roser, économiste à l'université d'Oxford, a regroupé toutes ces données sous forme de graphiques pour son projet Our World in Data. Le résultat est sans équivoque. Nos conditions de vie sont vraiment améliorées. On consomme différemment. Pourquoi acheter un vélo ou une voiture lorsqu'on peut emprunter un Bixi ou encore une Smart par l'entreprise de Car2Go? Quel est l'intérêt d'aller à l'hôtel quand Airbnb nous permet de louer un appartement à moindre frais? Un nombre croissant de gens découvre des avantages économiques et écologiques de la consommation collaborative, qui consiste à mettre en commun des produits ou des services. L'essayiste américain Jeremy Rifkin prédit même que l'émergence de cette économie du partage signera l'arrêt de mort du capitalisme. À son avis, dans un avenir pas si lointain, les consommateurs préféreront s'échanger des biens plutôt que de les acheter ou encore les fabriquer eux-mêmes grâce à l'imprimante 3D. Prophétie ou utopie? Le féminisme à la cote. Fini l'époque où les femmes n'osaient plus s'affirmer d'être féministes. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à le faire. On n'a qu'à penser à l'actrice Emma Watson et à son vibrant plaidoyer sur l'égalité entre les sexes pour la campagne « He for She ». À la chanteuse Taylor Swift, qui répète sans cesse en entrevue l'importance du féminisme, et à Beyoncé, qui, au dernier MTV Video Music Award, a illuminé ce terme longtemps malmené. On se réjouit que les jeunes filles d'aujourd'hui aient autant de modèles pour apprendre à faire valoir leurs droits. On peut apprendre à changer le monde. Pour trouver des solutions aux plus grands défis de notre époque, des surdoués du monde entier se réunissent chaque année sur les bancs de la Singularity University en Californie. Intelligence artificielle, nanotechnologie, biotechnologie et autres matières qui semblent révéler de la science-fiction sont au programme de cette école singulière financée par Google et la NASA. Le commun des mortels, lui, peut toujours s'inscrire au cours « Comment changer le monde » offert à la School of Life à Paris. Les participants apprennent à élaborer des stratégies et à trouver des fonds nécessaires pour défendre une cause qui leur tient à cœur. On a pris le virage vert. Les organismes qui défendent les causes environnementales comme Equiterre, Greenpeace, la Fondation David Suzuki me donnent de l'espoir. Je suis impressionnée par le chemin que les militants d'Equiterre nous ont fait parcourir. Ils ont été les premiers à nous ouvrir les yeux sur notre façon de consommer. Ils nous ont montré l'importance d'acheter des produits locaux, de privilégier des aliments équitables, de commander notre panier de légumes à un fermier de la région. Enfin, les géants se réveillent. La poignée de main de Barack Obama et Xi Jinping se sont données à Pékin au mois de novembre dernier, se fait déferler une vague d'optimisme sur la planète. Les présidents des États-Unis et de la Chine, les deux pays champions mondiaux des émissions de gaz à effet de serre, se sont enfin engagés à lutter contre le réchauffement climatique. La Chine tentera d'inverser la tendance autour de 2030. Et les États-Unis visent à réduire leurs émissions de 26% à 28% par rapport au pourcentage de 2005 d'ici 2025. Ces engagements augurent bien pour la conférence internationale sur le climat qui doit avoir lieu à Paris en décembre prochain.
Donne-moi de la laine, je te tricote une chanson. Les jours où t'as de la peine, tu pourras te blottir dans ces sons. Une mélodie que tu vas retenir, des mots qui te feront sourire, qui t'aideront à trouver le temps moins long. Écoute, ça, c'est tout ce que j'ai, c'est ce que je fais de mieux. Et si t'aimes pas ça, tu peux le crier, ou y mettre le feu. Mais moi, j'y ai mis ma tête, mes mains et mon cœur. Moi, j'ai aimé, et voici ma version du bonheur, et je l'ai fait. Moi du papier, je te griffonne une histoire. À la peinture à l'eau, je dégrise les trottoirs. Viens te balader dans mes sentiers, promener dans mes espoirs. Laisse-moi t'émouvoir. Écoute, ça c'est tout ce que j'ai, c'est ce que je fais de mieux. Et si t'aimes pas ça, tu peux le crier. Ou y mettre le feu, mais moi j'y ai mis ma tête, mes mains et mon cœur. Moi j'ai aimé, voici ma version du bonheur. Et je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. C'est tout ce que j'ai. Donne-moi de la laine, je tricote une chanson. Pour ce jour où ta peine voudra se blottir tout au fond.
Écoute ça, c'est tout ce que j'ai.
Eh bien, on vient d'entendre Ariane Brunet avec ma version du bonheur. Alors, une petite précision, c'est que Safia n'a pas eu le temps de nous donner toutes les raisons de croire en l'avenir. Elle nous en
ça
a donné que...
parcours.
Voilà. Donc, pour avoir les autres, il faut nous écouter la semaine prochaine parce que tu continueras ton article,
exactement,
je pense, en nous donnant d'autres raisons de croire en l'avenir. Moi, je vais vous parler du bonheur. Le bonheur, si je veux, c'est un texte par Karine Wilder et c'est dans le Véro magazine du printemps 2015. Parfois, les plus grandes idées découlent d'un simple petit incident. Si Isaac Newton n'avait pas reçu une pomme en pleine poire, il n'aurait peut-être jamais songé à élaborer sa théorie sur la gravitation universelle. Quant à Martin Seligman, éminent chercheur en psychologie, il est en partie devenu le père de la psychologie positive à la fin des années 90 grâce à sa fille de 5 ans, Nikki. Après avoir sévèrement réprimandé la petite parce qu'elle préférait s'amuser au lieu d'arracher les mauvaises herbes, cette dernière lui a fait remarquer que si elle avait réussi à cesser de toujours pleurnicher, il pouvait sûrement parvenir, à son âge, à être moins grincheux. La vérité sortant souvent de la bouche des enfants, Martin Seligman a ainsi réalisé que la psychologie moderne passait à côté de l'essentiel. Plutôt que de toujours se pencher sur nos angoisses ou nos dépressions, elle devrait plutôt chercher à nous donner les clés du bonheur. La psychologie positive est une science qui s'intéresse à ce qui marche bien chez les gens, appréciant la vie, dans le but d'aider ceux qui vont mal, explique Lucie Mandeville, psychologue et professeure à l'université de Sherbrooke. Grâce à la psychologie positive, les personnes qui vont bien iront encore mieux et celles qui traversent des moments difficiles prendront contact avec ce qui subsiste de bon dans leur vie, car c'est ça qui leur donnera l'énergie nécessaire pour arriver à surmonter les expériences négatives. Contrairement à ce qu'on a généralement tendance à croire, le bonheur est quelque chose qui s'apprend, précise Claudine Badelet-Rodriguez, psychologue clinicienne. D'après des études récentes, 50% de notre optimisme est héréditaire, alors que seulement 10% sont liés à nos conditions de vie, logement, ressources, etc. Les 40% restants ne dépendent conséquemment que de nous, ce qui exige un certain travail. Du coup, on comprendra facilement pourquoi une foule de bouquins propose désormais de nous enseigner comment être plus heureux en 20 jours ou en 20 leçons. Le hic, la propension au bonheur ne s'acquiert ni en 20 jours ni en 20 leçons. Elle doit être entretenue quotidiennement et réclame bien davantage que de belles pensées positives. Il faut absolument faire une distinction entre pensée positive et psychologie positive, explique Yves-Alexandre Talman, un psychologue clinicien. La pensée positive qui s'inscrit dans une mouvance ésotérique et qui n'a pas de véritable fondement scientifique affirme que les pensées positives amènent du positif dans la vie. Concernant la psychologie positive, avant d'affirmer que telle ou telle façon de penser ou de se comporter peut contribuer à notre bonheur, on s'assure donc que cela a d'abord été démontré scientifiquement. Mieux encore, l'application des stratégies recommandées par ces experts S-Bonheur aura aussi un impact positif sur notre santé physique. Même si certains médecins ont toujours du mal à le croire, cultiver la bonne humeur renforce notre système immunitaire et accroît notre longévité, souligne Lucie Mandeville. En d'autres termes, la psychologie positive nous offre à la fois tous les ingrédients du bonheur et une recette éprouvée contre quantité de maux latents. Afin d'y parvenir, les tenants de la psychologie positive ont commencé par dresser avec sérieux la liste des 24 qualités humaines universelles synonymes de mieux-être. Ils les ont appelées forces de caractère, mais moi je dis plutôt que ce sont des super-pouvoirs, déclare Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur et auteure du livre « Power Patate ». En s'appuyant sur ses forces plutôt que de chercher à corriger nos défauts, on se donne en fait toutes les chances d'être plus heureux. Et pour découvrir en moins de 20 minutes quels sont nos principaux super-pouvoirs, rien de plus simple. Comme le signale Florence Servan-Schreiber, il suffit de répondre à un questionnaire accessible gratuitement en ligne sur le site viame.org. Capacité d'aimer ou d'être aimé, curiosité, intelligence, sociale, leadership, etc. Chaque personne étant différente, l'ordre dans lequel ces qualités apparaîtront variera forcément. Mais ce sont surtout les 5 premières forces du classement qui comptent. Comme elles font naturellement partie de notre personnalité, ce sont elles qui nous rendent capables de nous sortir de tout. En leur accordant de la place et en veillant à les intégrer concrètement dans notre vie, elles activeront le meilleur de nous-mêmes et nous rempliront d'émotions positives. Selon certaines études, il y a cependant bien d'autres moyens d'échapper à la morosité. Je songe entre autres à la générosité, indique Yves-Alexandre Talman. Au cours d'une expérience, on a donné $50 à 2 groupes distincts. La consigne donnée au premier était « faites-vous plaisir » et celle donnée au second était « faites plaisir à quelqu'un ». On a ensuite mesuré l'état de satisfaction de chaque groupe et on a constaté que seules les personnes ayant fait plaisir à quelqu'un d'autre avaient profité d'une amélioration durable de leur humeur. La gratitude est également un axe très important de la psychologie positive puisqu'il a été clairement établi que les gens heureux sont d'abord heureux de ce qu'ils ont. Ils n'attendent pas à gagner à la loterie, d'obtenir une promotion ou de pouvoir s'offrir la maison de leurs rêves pour savourer la vie à sa juste mesure. Plutôt que de s'arrêter à ce qu'ils n'ont pas, ils se concentrent sur tout ce qui est beau, tout ce qui va bien, et ce faisant, ils découvrent d'eux-mêmes que le bonheur ne dépend pas des grandes joies qui peuvent de temps à autre leur tomber dessus, mais de tous les petits plaisirs dont ils sont quotidiennement conscients.
Femme à nous, les CA. Les filles, on n'y est pas encore. Le Canada comme le Québec accuse un retard sur l'Europe par rapport au nombre de femmes siégeant à des conseils d'administration de sociétés cotées en bourse. Au pays, un siège sur cinq est occupé par une femme, contre un sur trois en Europe. Mais on observe tout de même une avancée. Les entreprises ne se demandent plus pourquoi il faut atteindre la diversité au sein de nos organisations, mais plutôt comment. Souligne Colleen McKinnon, porte-parole de Catalyst, un organisme qui établit les stratégies de développement pour les femmes.
L'érable à table, comme vous le savez, le temps des sucres est célébré partout, en région mais aussi à Montréal, donc quelques bonnes adresses en ville où vous régaler. Alors, il y a d'abord le Richemont. Tous les dimanches, à partir du 15 mars, et ce pour 5 week-ends d'affilée, le Richemont transforme son traditionnel brunch du dimanche en cabane à sucre urbaine avec un menu inspiré de l'érable. Qui a dit que cabane à sucre ne pouvait pas rimer avec homard et foie gras? Voilà aussi une belle occasion de profiter de la terrasse chauffée, une barbe à papa, à l'érable, à la main. Et puis deuxième adresse, le restaurant-bar Communion. À partir du 14 mars et jusqu'au 26 avril, c'est le temps des sucres au restaurant Communion dans le Vieux-Montréal. Le chef J.C. Morinci offrira des brunchs dominicaux et des soupers 4 services à saveur d'érable. Dans un autre ordre d'idées, pour des brunchs festifs, le restaurant propose aussi une formule All You Can Drink à 30$ où les mimosas et les Bloody César seront servis à volonté de 11h30 à 15h.
Alors, un petit voyage au pays des saveurs. L'Académie culinaire de Montréal offre des voyages gourmands, un printemps à la française, un automne dans les vignobles de la vallée de Napa et des séjours au Pérou et au Vietnam. Visites de marché, ateliers de cuisine, rencontres et découvertes inspirantes sont au rendez-vous. C'est sur academieculinaire.com.
Notre émission touche à sa fin et j'avais en fait une petite citation pour vous aujourd'hui en ce jour de poisson d'avril. Une citation de Charles Churchill qui dit qu'une plaisanterie est chose sérieuse. Alors gardez ça en tête pour aujourd'hui. Et puis pour tout commentaire, si vous voulez, ben merci déjà à vous pour votre écoute et pour votre présence. Et pour tout commentaire, vous pouvez en fait nous rejoindre au numéro sans frais, le 1-800-361-0635 poste 220. Ou bien vous pouvez aussi nous écrire à notre adresse courriel canalm@vusezvoix.com. Merci également à Jean-Sébastien Laliberté pour ses choix musicaux et sa mise en onde. Merci à toute l'équipe. Et donc, prenez soin de vous et on se revoit la semaine prochaine.
Et bon week-end de Pâques.
Oui,
attention,
bon
pas
de
trop de chocolat quand même. Hein.